48 FM.
Les Slick John au couloir numéro 2. Allez, les Slick, c'est parti pour les Slick John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Tadji Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du Tadji Apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Eh bien le bonjour à tout le monde, bienvenue pour l'instant sport avec une nouvelle fois d'excellents résultats pour nos équipes lozériennes. Laurent Julien, bonjour.
Salut tout le monde.
Alors pas terrible ton équipe par contre, hein. Une défaite dans le derby du Val-d'Aunais 2-1.
Voilà, donc il y avait une magnifique coquille dans le midi pour ce matin, puisque nous avons gagné 3-0 chez nos amis du Val-d'Aunais.
C'est ce que vous voulez nous faire croire.
Ouais. Non, c'est vraiment le bon résultat, 3-0.
Alors dis-moi, 3-0 à titre personnel.
Pas grand chose. J'ai joué la dernière demi-heure, bien placé, couloir gauche, peinard, aucun débordement. Ouais, j'ai dû faire deux touches et deux ballons foirés.
Tu sais qu'il a un GPS, hein, Laurent, sous le maillot pour voir ses stats un peu. Donc il a fait 2 mètres, hein, d'après le GPS.
Mais deux très bonnes touches. Elles n'ont pas été à refaire. Ouais,
un mètre pour aller chercher le ballon pour faire la touche et un mètre pour jouer
la touche. Ouais, c'est ça. Mais j'étais un peu diminué physiquement et mentalement.
Ça arrive.
Donc du coup, voilà, j'ai joué placé.
Le capitaine est là également. Bonjour Aurélien Lacaze.
Bonjour à tous.
Alors bon match en partant à 5, plus de 50 points inscrits par votre équipe. Une belle performance. Et toi, tu rentres dans tes standards, 14 points.
Ouais, comme tu viens de le dire, on était à 5, donc aucun remplacement. Donc ce qui explique aussi mes 14 points, hein, comme j'ai joué 40 minutes, d'habitude je joue pas tout le match entier. Donc ça explique aussi les 14 points, mais à 5, on s'est bien défendu.
Cela dit, je crois qu'il ne finit pas meilleur buteur de l'équipe.
Marqueur.
Ah, je me fais chapeau.
Non mais 52 points à 4 joueurs en plus.
Il y a des gens qui jouent 40 minutes et ne marquent pas.
Ouais, c'est ça, bien joué Patrick, justement. Bon,
on dit pas celui qui a marqué 0 points.
Ouais,
mais bon, tout le monde a compris.
Tu m'as coupé ma relance.
Ah merde, pardon.
Non, Luc, reviens.
J'allais dire que lui aussi était fidèle à ses statistiques. Salut Luc.
Bonjour tout le monde.
Mais toi Luc, tu gardes le gros match de la saison pour Rousson.
C'est ça, exactement. Hein? Samedi à 20h30 au gymnase Saint-Privat. Jubilé et une bonne cinquantaine de points. Je me réserve pour ça.
Ouais, parce que tu sais, Patrick, souvent il y a des joueurs qu'on ne voit pas durant la saison et tout d'un coup, à un match, ils explosent. Tu ne sais pas pourquoi.
Ah, bim,
triple-double. Oui. C'est pour ça. Mais on va revenir sur ce match de Rousson.
7 sur 7 à 3 points.
C'est ça. Et Patrick est donc également là. Salut Patrick.
Salut à toutes et à tous.
Alors Patrick, sans le savoir, tu as sauvé ma soirée d'hier. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que depuis que je fais l'émission ici, je regarde un peu plus les matchs de l'OM. Et j'ai un enfant en bas âge, tu le sais. Alors moi, je ne sais pas faire les enfants qui dorment tranquillement. Je suis plutôt enfant qui ne dort pas, qui fait que pleurer. Et hier, je l'installais devant OM Bordeaux.
Et ça a endormi.
Des fois, il ouvrait l'œil et il se rendormait.
C'était au moment où il y a les bombes agricoles explosées.
Voilà, c'est ça. Alors je vais écrire à l'OM pour qu'il m'envoie tous les matchs à domicile sur DVD. Et comme ça, je suis tranquille pour la saison.
C'est malin tout ça.
Parfait.
Bon, allez, les résultats des équipes lozériennes. Et comme on en a un peu parlé, on va commencer par le basket. Défaite du BCM à Montpellier Croix d'Argent, 97 à 52. La Croix d'Argent, quand même, 5e du classement. Donc, on le disait, c'est une belle performance. Alors, Rousson et Saint-Gilles ont perdu en plus. Saint-Gilles qui est avant-dernier, mais ça, vous ne jouez plus contre eux. Donc, s'ils ne perdent pas, vous ne pouvez plus les rattraper.
Ouais, je crois que même s'ils perdent, ça va être compliqué de les rattraper. Il faudrait qu'on gagne tout et qu'eux perdent tout.
Ouais, c'est ça.
Par contre, il y a l'espoir de se maintenir parce que Moggio a fait forfait.
Exactement.
Rousson est devant vous à un point. Donc, si vous battez Rousson et que dans le même temps, lors de la dernière journée, Rousson perd contre le leader Fabregue, vous perdez contre Saint-Gilles, vous êtes quand même devant en TP-nultième. Et donc, vu que c'est les deux derniers qui descendent, avec 3 victoires, vous maintenez.
Tu as tout résumé parfaitement, exactement. C'est-à-dire que si on gagne le match contre Rousson à domicile ce week-end, on sera à égalité de points avec eux. Mais étant donné qu'on aura un goal average particulier favorable, on passera devant eux au classement.
Alors, on sait que les sportifs lausériens nous écoutent dans cette émission, donc on va lancer un grand appel ce samedi à 20h30 au gymnase Saint-Privé-Amande pour que tout le monde vienne, que ça soit plein, et qu'on encourage le BCM pour ce match capital contre Rousson.
Voilà, et nous, avec Patrick, on ira bloquer les joueurs de Rousson à Balsièges. On va être sûr qu'ils arrivent un peu à la
fin.
Pas bien.
À 3 ou 4, à 1 ou 5.
Et d'ailleurs, on annonce à ton entraîneur que tu es pas là samedi au Buisson, Laurent.
Ah,
tu
ouais.
es blessé.
Tu es forfait.
Tu es forfait.
Bah, je sais pas, on verra.
Voilà. Ah, c'est ça, pas que les sportifs d'ailleurs. En plus, je crois que le hand est en déplacement, le ouais, foot est en déplacement aussi. Donc, il y aura le basket à venir voir samedi soir.
Oui, puisque le volley joue dimanche. Donc, vous serez parfait. Seul à jouer samedi soir.
Voilà. Donc, tous les sportifs, même.
Alors, amenez vos chaises parce qu'il y a que 4 chaises au stade.
Non, tout le monde debout. On amène des fumigènes par contre. Hein, ça, ouais, c'est pas mal.
Ça, je sais pas.
Et des cornes de brume.
Pour venir sur ce match, 50 points à 5 sans remplaçant. Très, très belle performance, Aurélien.
Ouais, exactement. On signe une des meilleures performances offensives de la saison à 5. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est un bon point à retenir. Et puis, on a pris le match en sachant qu'il n'y avait pas de remplacement. On a pris le match comme il fallait le prendre, c'est-à-dire sans se prendre la tête, en se disant qu'il fallait prendre du plaisir et en étant solidaire. Et ça a pas mal fonctionné.
Alors ce week-end, Rousson qui a marqué que 35 points à Castelnau, et Saint-Gilles justement qui a pris un 112-49 à Saint-Gilles-du-Fesc, donc pas mal.
Ouais.
Hein. Mais bon voilà, donc samedi 20h30, c'est le match de l'année, hein. S'il y en a qu'un à voir, c'est ce dé-là, ouais. Hein. C'est la finale.
C'est la finale du bas de tableau.
C'est ça, c'est un peu la finale du bas de tableau.
Ouais, donc allez, on va le rappeler tout au long de cette émission, cette date, cet horaire, parce que c'est important.
Rappelle-le aussi aux basketteurs qui doivent jouer sur le terrain pour qu'ils viennent à l'entraînement, parce que ça serait pas mal qu'on le prépare quand même ce match.
Ce serait bien qu'ils viennent mardi et jeudi. Enfin, en même temps, jeudi, je sais pas si on a un gymnase pour s'entraîner, mais.
Ouais, vous entraînez dehors pour un match comme ça. Moi, j'ai vu Rocky Balboa, il courait tout seul dans la rue, monter les marches. Allez, c'est pas grave, t'as une cathédrale, tu montes les marches, tu les descends.
Et il neigeait.
Ça peut arriver encore.
Ça peut encore arriver.
On sait pas. Le volet, on va aller vite dessus, vu que le MVL, c'est déjà qu'il va monter. Enfin, le volet senior équipe 1, une nouvelle victoire, 3-7 à 0 contre Marseille. Hein, Patrick, normal.
Ouais, oui.
25-15, 25-23, 25-23. Donc, Mende qui reste un solide leader. 34 points, Monaco second qui se remet un peu de ses émotions, qui a gagné 3-0 contre Alès, qui est bien
pour
calé
le fun,
à la deuxième place.
Premier qui monte.
Voilà, c'est ça. En pré-national, on va vite aussi car le match Mende contre 7 a été remis. Alors ça, je sais pas pourquoi.
Pas d'infos.
C'est pas la pluie, non.
Bon, je crois pas.
Pas ça. Ok, Mende qui reste bien installé en milieu de classement.
Pas des histoires de coupe de la région, des choses comme ça.
Oui, mais ça doit être ça. Mende qui est 6e avec 23 points, donc bien calé. Alors les filles, important, j'avais pas le résultat, j'ai croisé à Mal tout à l'heure devant la radio. Elles ont gagné leur quart de finale contre Gignac et Moggio. La demi aura lieu à Mende, donc je sais pas quand, pour savoir si elles montent. Donc voilà, on se demandait où c'en était, qu'est-ce qu'il allait advenir. Donc c'est une excellente nouvelle. Les filles qui ont gagné leur quart de finale à l'extérieur, et on va attendre de savoir maintenant la demi, quand est-ce qu'elle aura lieu pour l'annoncer. On espère que c'est pas samedi à 20h30 parce qu'il y a un super match au gymnase Saint-Privat. Mais en tout cas, voilà, elles continuent leur bonne saison, hein, Patrick. Hein.
Oui, c'est une excellente saison pour les deux équipes seniors du Mende Volley Lozère. Puisqu'il peut y avoir une doublée avec les deux équipes qui accèdent au niveau supérieur. Bon, les garçons, on sait que c'est déjà fait. Et puis, il y a ce titre de champion de France de N2 à aller chercher. Donc, Mende a posé sa candidature pour organiser. C'est le week-end du 14 mai. Malheureusement, c'est le même temps que le week-end du trèfle. Donc, les hôtels sont déjà tous complets. Et donc, ça pose problème aux dirigeants du club parce qu'il faut accueillir trois équipes. Donc une équipe de La Réunion plus deux autres équipes qui est en tête des deux autres poules de play-off. Donc ça met un léger bémol sur la candidature mendoise, même s'ils vont tout faire pour être choisis par la fédération.
Pour les garçons, hein.
Pour les garçons.
Alors ouais. On rappelle que c'est les trois équipes, alors hors La Réunion, qui seront qualifiées, qui peuvent candidater pour organiser ce championnat de France. Donc pour l'instant c'est pas encore hein, qui sont
non,
les
c'est
les
pas
deux
encore
autres.
Parce que
Épinal est en ballotage favorable.
Contrairement à Mende qui a écrasé tout écrasé sur ce passage, les autres équipes ont beaucoup plus de mal et donc tu parlais 34 points pour Romande, et aucune équipe des autres poules n'a atteint pour l'instant ce score. Donc, comme Luc le disait, Épinal, a priori, même si mathématiquement c'est pas fait à deux journées de la fin, Épinal quand même est bien placé pour être premier. Par contre, pour la troisième poule, le suspense est total, puisque Amiens et Brive sont pour l'instant à égalité. Et donc, en troisième place, il y a Vincennes, donc bien sûr en région parisienne, qui est juste à 3 points des deux premiers. Donc on voit, il y a encore 3 équipes qui peuvent se mêler à la lutte pour être champion de poule et donc accéder en élite la saison prochaine. Donc voilà, c'est vrai que la fédération, bien sûr, ne peut pas se prononcer tant que les 3 équipes ne sont pas connues pour savoir qui va organiser.
Ça serait bien qu'ils jouent à La Réunion, sinon.
Non, mais La Réunion, déjà, eux pour eux, c'est obligatoire de venir à Métropole. Ça fait leur truc de fin de saison. C'est un peu ce qui les motive dans leur championnat à eux pour finir premier. Voilà, parce qu'ils savent qu'il y a un voyage en Métropole et donc la possibilité de se faire repérer par tout un tas de clubs qui viennent justement voir le niveau de ces joueurs.
C'est pour se faire repérer, parce que si c'est niveau Fiesta et compagnie, si tu débarques à Mende en même temps que le trèfle, tu dois halluciner. Mais bon.
Ouais, voilà.
Par contre, dans l'autre sens, ça aurait été bien. Hein, on aurait couvert la Réunion.
Hein, ouais, ouais.
On aurait demandé à la fédération. Ah ouais. Les filles, si on nous écoute, si on sait la date des demi, si on peut nous envoyer un message sur un de nos portables, ça serait pas mal. Rugby, demi-finale de PH, gros match du RCML à Pézenas qui s'impose 24 à 13 dans les dernières secondes. Quelqu'un a suivi ce match, Patrick, Luc?
Ça a été totalement la folie. Même il y avait énormément d'abattements, il faut le reconnaître, chez les supporters et même chez certains dirigeants. Quand à la 80e minute, tu es mené 13 à 10. Bon ben voilà, tu sens la fin, ton élimination, alors que tu étais premier de poule. Donc bon, ils ont rien lâché, et puis il y a eu cette délivrance avec cet essai quasiment sur le gong, et puis après l'arbitre a fait jouer des arrêts de jeu, c'était logique, et donc Mende a rajouté un troisième essai à ce moment-là, mais à la fin du temps réglementaire, Mende était éliminé. Donc ça prouve toute la valeur mentale de cette équipe, de cet effectif. Un match vraiment hyper dur, limite violent, d'après ce qu'on m'a dit, avec vraiment une équipe de Nissan en face qui était surexcitée. Bon, c'est normal, c'est les phases finales en rugby, c'est souvent, c'est même toujours comme ça.
Quelle incidence pour la montée, là? Explique-nous.
Mais donc là, tu fais la finale donc contre Vinassan, où tu avais, si tu te souviens bien, tu avais donc devancé cette équipe donc au match de pénalité, puisque tu avais fini... premier ex aequo, et donc ça t'avait permis de pas faire les quarts de finale. Donc Vinassan a battu Tosh Corbière en demi-finale, donc tu vas rencontrer cette équipe de Vinassan en finale. Donc a priori à vérifier, mais d'après ce que j'ai compris, le vainqueur accède à la division d'honneur l'année prochaine.
Le vaincu
reste en promotion d'honneur. Mais par contre, il y a les trois premiers, les trois meilleurs qui se font le championnat de France. Donc Mende est d'ores et déjà qualifié, Vinassan est d'ores et déjà qualifié. Et donc après, comme c'était par rapport au classement de phase de poule, donc c'est Tosh Corbière qui avait fini devant Nissan. Donc c'est Tosh Corbière qui est qualifié aussi pour les 32e de finale du championnat de France.
Donc le match
qui a lieu au mois de mai.
Et le match donc de la finale du championnat du Languedoc qui se jouera, c'est dimanche prochain.
C'est dimanche prochain.
Sur la pelouse du mythique stade de Sauclière à Béziers.
Ouais.
Là où le Grand Béziers a écrit une grande page de son histoire. Et là où le RCML a remporté son seul titre jusqu'à présent chez les seniors, qui était une Coupe du Languedoc.
La Coupe du Languedoc.
Ils avaient remporté sur cette même pelouse de Sauclière.
Et là encore, d'ailleurs, ça avait été un match assez épique, puisqu'ils avaient marqué un essai dans les arrêts de jeu.
C'est Jean-Hugues Tichit qui marque un essai.
Vianney Labaume.
C'est un beau numéro de Jean-Hugues Tichit là, sur le côté... Qui évite la touche, je ne sais pas comment, avec des appuis de feu, et qui va donner effectivement à Vianney la bombe qui marque. Mais pareil, au bout du bout des arrêts de jeu.
C'était l'essai de la victoire, et c'est vrai que c'est une pelouse qui leur porte chance, donc on espère que ça va se reproduire.
Tu étais, Aurélien?
La finale de la Coupe du Languedoc, ouais, j'étais, ouais. J'étais allé la voir,
tout à fait. Et moi, j'ai eu la chance de jouer sur ce stade. Alors,
au rugby?
Non, au foot.
Ah, pardon.
Et donc là, pour aller du vestiaire jusqu'au terrain. Il y a un couloir, mais je vous laisse imaginer le couloir qui doit faire 60 cm de large. Quand les deux équipes doivent se y retrouver en fin de match ou même avant le match, ça doit être quand même quelque chose.
Tu peux imaginer ce qui va se passer dimanche dans ce couloir. On vit à Saint, un petit club de l'Aude, un petit village. Et je crois qu'il n'y a même pas 3000 habitants. Donc Donc on imagine toute la passion, toute la ferveur qu'il va y avoir dans ces tribunes.
Je crois que l'avantage, c'est que
avec les supporters et bien sûr dans ce couloir et sur le terrain, voilà, un choc énorme qui va avoir lieu dimanche prochain.
Je crois que l'avantage, c'est que les deux équipes ne peuvent pas se côtoyer dans le couloir tellement
il est vraiment étroit.
Il est étroit donc.
En match de saison, donc ça avait donné quoi vous en rappelez pas ?
Je me semble que le RCML avait perdu là-bas.
Et qu'on avait gagné au retour.
Je pense qu'il y avait, une victoire.
Je crois qu'il y a une victoire de chaque côté.
De chaque côté.
Ok, on connaît pas la date non plus de.
C'est dimanche.
C'est ce dimanche, d'accord. Dimanche. Ils doivent faire un bus alors pour descendre.
J'imagine un ou deux, oui.
Il y aura un bus.
Ils en avaient fait un pour les demi-finales. Donc je pense que là, oui.
Et on rappelle à nos amis rugbymen qui peuvent venir samedi soir à 20h30 au gymnase Saint-Privat pour
choc. Ça finira pas tard, ils pourront aller dormir tôt.
Ouais, c'est ça. Football, l'AFL, non, handball d'abord. Tiens, très belle opération handball du MGC contre la grande équipe de Prades handball, 29-28 victoires. Surtout qu'il me semble que dans le même temps, Agde a perdu.
Absolument.
Donc ça sent très bon parce que
Agde a perdu contre les cheminots nîmois.
C'est ça. Et le MGC va jouer contre Nîmes.
Oui,
samedi. Samedi.
Effectivement, j'ai eu Pascal donc, qui m'a envoyé un petit message hier soir pour signaler effectivement que Agde avait perdu, en même temps qu'eux ont gagné ce match de haute lutte contre une équipe de Prades qui est arrivée un petit peu renforcée avec des joueurs de N3, puisque la N3 de Prades ne jouait pas. Donc une équipe qui était clairement venue pour gagner. Et ça a failli se faire. Hein, c'est un match, Laurent Kieté, apparemment un match assez rude.
Tu dis que l'équipe de Prades était renforcée, donc il y avait en effet deux joueurs qui jouent à N3, mais ils étaient surtout très renforcés par un arbitre, petit arbitre. Je pense qu'il doit habiter à Agde. Enfin, je ne sais rien. Je veux pas être mauvaise langue, mais il s'est fait siffler par toutes les tribunes. Sauf par moi, puisque je suis
fair-play.
Tu es un modèle de fair-play.
Voilà. Toi, tu lui as lancé tes canettes.
Non. Ça a été un match épique parce que le déroulement du match n'a pas été a été très stressant, puisque Maxime André a attaqué à faire un très gros match. Bon, il claquait but sur but, et puis sur un but, il s'est malheureusement blessé au genou. Ouais. A priori, la saison est terminée pour lui.
Ils attendent les examens, mais c'est quand même mal embarqué.
Non, c'est très mal embarqué. Donc on se prive de Maxime pour ce match. Et puis dans le jeu, l'équipe perd Mireille Catalin, le pivot gargantuesque de l'équipe, pour un carton rouge. S'ensuit après un autre carton rouge de Kevin Bocanegro. Bon, donc du coup là c'était quand même assez stressant.
Alors, on va expliquer quand même juste pour les cartons rouges, c'est pas le MGC où après les deux minutes de pénalité habituelle, le joueur ne re-rentre pas, mais
il n'y a pas eu de rapport à la fin du match, donc ces joueurs-là pourront rejouer la semaine prochaine.
De rapport ?
Des rapports de l'arbitre.
Ah, d'arbitre.
Oui, voilà.
Enfin, l'équipe du MGC n'était pas réduite à 5 joueurs.
Deux minutes,
il revient. Mais pareil que l'arbitre était en train de faire son rapport quand tu lui as arraché des mains, que tu as déchiré.
Voilà, donc il n'y a pas eu de rapport.
Comme il n'avait plus de papier, donc il n'y a pas de rapport.
Ni de stylo, il n'avait plus rien.
Ni de voiture, d'ailleurs, il n'avait plus rien.
Non, et donc, par contre, alors du coup, j'en étais où ? Ah oui, voilà, donc l'arbitre nous a fait un petit sketch à 9 secondes de la fin. Donc toujours un autre but d'avance, quand Pascal demande un temps mort, et Fabien Marty qui récupère le ballon, bref, il pinaille et il fait une faute de marcher ou de je ne sais quoi. Sauf que l'arbitre, évidemment, intelligent comme il est, il a donné le coup franc à l'équipe adverse, donc ça voulait dire match nul, quoi. Et alors, imaginez le public, les gens ont hurlé, appelé par des drôles de noms que je connaissais pas.
C'est pas bon.
Et finalement, sur la table, c'est les personnes qui sont à la table qui lui ont dit que le temps mort avait été demandé juste avant seconde d'avant la faute de Fabien Marty. Et donc, il a été obligé avec cette décision de rendre le ballon au Mandois et donc de finir le match. Donc ça a été un peu un autre boudin. Cette fin de match très stressant parce
t'es rentré énervé quoi.
Non, ah ouais, frustré quoi, pas bien.
C'est ça que t'as perdu le lendemain.
Pas perdu le lendemain. Bref, donc ça a été quand même une belle victoire puisque l'équipe de Prades vraiment a été très bonne aussi, et voilà, donc la route continue vers l'accession.
Ouais, bah, il leur faut gagner un de leurs quatre derniers matchs.
Un seul.
Parce qu'ils ont 7 points d'avance.
Ils ont 7 points d'avance.
À 4 matchs de la fin.
Voilà. Là, tu as 99,99%.
Il leur faut gagner un match, sachant que.
Ils vont à Nîmes ce week-end.
Sachant qu'ils vont à Nîmes.
Oui, mais ça, c'est pas grave s'il reste 3 matchs derrière. Tu vois ça bien.
Exactement.
J'ai eu Pascal ce matin qui m'a dit bon, voilà, ils vont à Nîmes. S'ils peuvent gagner, ils gagneront. Bon, ils vont pas non plus se mettre en danger contre cette équipe de Nîmes, sachant qu'ils reçoivent l'AS la semaine d'après, dans 3 semaines, est-ce qu'il y a une petite coupure entre le match de Nîmes
à la maison? En plus, c'est bien de faire
à la maison, et que voilà, bah, ça leur permettra
donc de faire. Ça, c'est ce que Pascal a dit à Luc.
Ça, c'est ce que Pascal
c'est ce
a dit.
Ce qu'il ne dira pas à ses joueurs, évidemment. Je pense qu'il va vouloir gagner ce match
bien
dès
sûr,
samedi soir.
S'ils peuvent le gagner, il m'a dit, hein, si on peut le gagner, on le gagnera et on sera tranquille. Voilà, il leur reste deux matchs à domicile, deux matchs à l'extérieur.
Tu te rends compte que tu as perdu un seul match depuis le début de la saison. Donc là, il te faudrait perdre les quatre derniers matchs. C'est totalement,
si tant est que...
totalement impossible. Et en même temps, il faut que Halle gagne ces quatre matchs.
Voilà, il faut que les adversaires gagnent aussi.
C'est fini.
On peut le dire. On est à 2 sur 3 pour l'instant pour les monter quasiment.
Mais on a un match, moi. Exact.
Voilà, le volley, le hand, je pense que...
2 sur 4, monsieur. Parce qu'il y a le rugby qui peut monter.
Et le rugby, effectivement, oui, 2 sur 4 pour l'instant.
Et les filles du volley, hein.
Ah, les filles du volley,
3 sur 5.
3 sur 5. 2 sur 5.
2 sur 5, c'est pas fait pour les
filles. C'est pas fait, mais bon.
Bon, moi, il y en a qui vont s'arracher les cheveux quand il va falloir faire des... Pour les subventions, ça va être...
Ouais. C'est déjà en train. Hein,
ah bah, je pense que
pour parler, on a déjà débuté. Je
pense
dire.
Que ça négocie. D'ailleurs, il y a eu un vote pour augmenter les impôts.
ouais, c'est pour ça.
Peut-être que vous aussi, hein, parce que s'il passe en division supérieure, vous allez me demander plus d'argent pour participer à cette émission.
Tu fais bien de nous donner cette idée-là. Ouais. Que pas passé, quoi.
Heureusement que le basket.
Les pourparlers vont commencer.
Se maintiendra peut-être.
En même temps, moi, je te coûterai pas cher.
Ouais, ouais. Mais ça, on en parlera en fin de saison. On fera un jubilé. Un spécial. Tu sais, j'ai gardé toutes les bandes quand tu disais Morel, superbe saison, grand arrière gauche, tu vois, des trucs comme ça, voilà. Je les ai gardés.
Non, ça c'est Patrick qui disait.
C'était ça.
Et tous ces pronostics aussi.
Et tous les pronostics aussi, t'as raison. Allez, on va justement parler d'un prétendant à la montée. En football, l'AFL se reprend et gagne contre Saint-Clément-Montferrier. 4 buts avec un doublé de Rebelosso, un but de Garbi et un de Gourma. Il paraît un très beau lob que je n'ai pas vu. Mais bon.
Que vous pouvez voir sur le site de l'AFL.
Tu peux aller le voir, c'est un but quasiment de notre monde.
Magnifique. Je croyais même pas qu'il était rentré en fait.
Non, personne.
C'est du Fadil.
Ceci étant, dans un autre style, le but de Yanis Garbi est magnifique aussi dans sa construction collectivement. Il est très très beau.
Ouais. Le but de 2-1 du Val d'Oise aussi est énorme.
Le premier aussi.
Ouais. Par contre, dans le même temps, Narbonne a gagné du but 1 à domicile face à Bagnols-Pont, donc le classement ne change pas. Mende 73, Narbonne 70, Perpignan-Canet 63, donc on s'arrête là. Allez, c'est fini. Même Perpignan, hein, Canet, c'est fini. Donc Mende-Narbonne fut. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent?
Eh bien, on peut faire le point sur les derniers matchs qui restent. Ah, donc le 17 avril, l'équipe va à Alberès-Argelès,
Il dit toujours Argelès,
puisque le match de
Argelès, c'est mieux.
Qui est dixième avec
50 points. Qui est dixième avec 9 points d'avance sur le premier relégable, donc peut-être qu'ils vont pas jouer non plus.
C'est pas complètement
le couteau entre les dents, quoi.
Ils sont pas sauvés mathématiquement.
Ouais, ils sont pas sauvés, mais quasiment.
C'est quand le prochain match?
Dimanche. 17 avril.
Dimanche.
Donc ils peuvent venir aussi samedi soir, les footballeurs. Oui.
Alors, à la même heure, Narbonne ira à la Grande Motte, qui, elle, est 12e et donc doit gagner, enfin, prendre des points, faire quelque chose. Ça nous arrangerait. Le 1er mai, alors réservez votre week-end, votre jour férié du 1er mai, puisque l'AFL ira à Aigues-Mortes, qui est 8e, mais qui est 8e, qui est toujours très difficile à jouer, malgré tout. Narbonne ira à Canet, qui est 3e. Là, par contre, ça peut être très intéressant, parce que Canet revient très fort. Et donc, je miserais bien une pièce sur le week-end du 1er mai, pour fêter le titre. Et donc, après, il restera donc la dernière journée à Bagnols, qui est 4e pour nous, pour l'AFL, et une réception de Latte pour Narbonne.
De toute façon, c'est les murs de la radio qui s'effondrent. De toute façon, il faut deux victoires dans les trois dernières journées pour l'AFL, pour se permettre de vivre une dernière journée à Bagnols.
Une victoire et deux nuls aussi.
Oui, mais enfin, si tu gagnes tes deux prochains matchs, tu sais que le match de la dernière journée contre Bagnols-Pombes, bah, tu n'as plus de pression. Il est pour du beurre. Sachant qu'il y a un match à domicile, un match à l'extérieur. Donc, et que
les deux prochains matchs de Narbonne sont à l'extérieur.
Et que les deux prochains matchs de Narbonne sont à l'extérieur. Donc, ça veut dire que l'AFL a encore une fois les cartes en main.
Une victoire de nul, tu ne montes pas.
Oui.
C'est ce que j'étais en train de calculer. Une victoire de nul, ça fait 9 points.
Ouais. Si les autres gagnent les 3 matchs, tu ne montes pas.
Ça fait 9 points.
Ça fait 8 points. Une victoire de nul, ça fait 8 points.
4 et 4, 8.
Parce que c'est 2 points en match.
Ah ouais, excusez-moi.
Rappelle-moi, tu fais quoi dans la vie?
Donc, une victoire et deux nuls, bon, tu passes pas. C'est Narbonne, il y a 3 matchs.
Le NL a gagné.
Oui. Mais ça sent bon quand même là. C'est pas que ça sent bon, mais s'ils montent pas cette année, ça sera vraiment une très grosse déception. C'est plutôt clair. Dans ce sens-là.
C'est clair, mais moi je pense qu'il va falloir vraiment gagner ces deux matchs sur les 3 derniers parce que. Malgré le fait des matchs que tu viens de citer, Laurent, par rapport à Narbonne, je suis intimement persuadé que Narbonne va gagner ces 3 matchs. Pour XY raison, pour des facteurs que nous ne pouvons pas développer en public, mais ça c'est mon intime conviction.
Et que Bagnols jouera à fond le dernier match.
Voilà, et que Bagnols, exactement, c'est ce que j'allais dire, donc tu vois, tu lis dans mes pensées, mais parce que tu connais toi aussi très bien le monde du football amateur, et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que Mann gagne 2 matchs sur 3 parce que Narbonne veut gagner ses 3 matchs.
Ce qui est intéressant, c'est que Narbonne va à la Grande Motte. Ils ne pourront pas s'arranger.
Ça, on est d'accord.
Avec la Grande Motte.
Mais là, les dynamiques sont tellement opposées par rapport aux deux clubs. Je pense que Narbonne,
rien que
sur le
aussi.
Jeu, bon, voilà.
Oui, mais là, tu
le coach, il va bien passer un coup de fil pour aller motiver ses anciens joueurs.
Ouais, tu sais, mais bon, entre un coup de fil et d'autres.
Un billet 50 et un coup de fil. Merci.
Arrêtez de dire n'importe quoi. Je ne cautionne pas non plus ce que vous êtes en train de dire. Non, il suffit aussi que Narbonne ne concède que nul. Déjà, ça leur mettrait un peu plus de pression.
C'est clair. Mais bon,
après, moi, j'étais pas au match samedi. J'ai vu le résumé. L'AFL a quand même fourni une belle prestation aussi.
Non, il y a eu un excellent match de l'AFL. Bon,
avec encore une fois un très gros match de Dorian Rebolosso.
Il faut qu'il vienne là.
Un effectif qui est vraiment accablé par les blessures, hein, puisque. Il y a le gardien qui, en principe, lui aussi, a la saison terminée, puisque, d'après ce qu'on m'a dit, il aurait la même blessure que Fadil en début de saison. Donc, pas sûr qu'il puisse rejouer d'ici la fin du championnat.
Voilà, donc dimanche, c'est le petit jeune de 17 ans, Jordan Magurno, qui a joué.
Donne-tu nous parler.
Et je vous en avais parlé peut-être la semaine dernière, ou je ne sais plus quand. C'est un très, très bon gardien. C'est le futur de l'AFL, ce jeune garçon.
Si on accepte de lui donner les responsabilités des buts de l'équipe.
Ah ben là, il n'aura pas le choix.
En DH, c'est que effectivement, ça va être un gardien de mon niveau.
Il ne faut pas le lui dire parce qu'il est jeune, il ne faut pas que ça le perturbe.
Non, mais c'est vrai qu'il a fait.
On se le dit entre nous.
Quoi. Il a fait deux, trois arrêts de classe, il faut le dire.
Puis après, il a eu la barre du bon côté,
exactement, en première mi-temps. Et puis, bon, il y a eu un grand Fadil, hein, puisque les deux premiers buts, c'est lui qui fait les deux passes décisives, il marque le troisième. Et c'est vrai que quel troisième, quand il est dans cette forme-là, bon, c'est vrai que ça permet quand même de débloquer. Les situations, et on connaît toute l'importance d'avoir un buteur ou un passeur dans ces matchs, justement, où il y a quand même une certaine pression, puisque tu avais perdu à Carcassonne sur un but cascade, et donc tu avais quand même, quoi qu'on en dise, une certaine forme de pression, et surtout avec un nombre de blessés, au moins 5 ou 6 titulaires quasiment indiscutables absents. Ça te fait quand même plus de la moitié de ton équipe.
Et du coup, est-ce que tu penses pas que justement la blessure de Fadil en début de saison fait qu'il est plus frais maintenant et qui fait que justement il nous sort une grosse fin de saison et qui va être super important pour les derniers matchs?
Je suis entièrement d'accord avec toi et donc ça peut être un mal pour un bien et ça lui permet justement, c'est vrai, d'avoir une fraîcheur et c'est vrai que bon, depuis quelques semaines, il aligne les performances magistrales, surtout à domicile. On a vu quelques matchs, bon, contre Fontignan, etc., Latte, bon. Il y a eu, bon, avec Rebolosso, ils s'entendent serrer magnifiquement bien. Garbier aussi revient bien. Donc, on a une puissance de feu, c'est vrai, incroyable en attaque.
D'autant qu'on attaque une période de l'année qui va être plutôt favorable à l'AFL. Hein, parce qu'on le sait, l'AFL, c'est plutôt un jeu technique avec des joueurs comme Fadil, comme Yanis Garbi, des joueurs qui aiment jouer dans des petits espaces sans balancer des grands ballons, avec des terrains qui vont devenir de plus en plus agréables à jouer. Et on l'a vu sur le but de Yanis Garbi, le deuxième ou le troisième, où ça vraiment joue dans des petits périmètres avec
des 1-2.
Voilà, et puis bon, on reparle de Fadil. Fadil a manqué plus de mois de compétition, je crois, c'est ça, hein.
Pas pratiquement 3.
Voilà, bah, il est quand même meilleur.
Plus de mois, ouais.
Il est plus de mois, pratiquement de championnat. Il est quand même meilleur buteur de DH.
Il s'est fait redoubler, je crois.
Il s'est fait redoubler
par celui de Narbonne, là, qui est aussi excellentissime, Riera.
Donc, enfin bon.
Il est dans les 2-3 meilleurs buteurs.
J'ai pas les stats de Dorian Rebolosso qui lui est arrivé en fin d'année 2000.
Il a la dizaine alors que Fadil a dépassé. Fadil doit être à 12, je crois.
Donc voilà.
Rebolosso doit être à 8-9.
Offensivement, sachant que la FL avait récupéré aussi ses deux suspendus à Mboup et Pierre Tessier, qui était suspendu pour le match précédent. Donc bon, le coach qui récupère un petit peu de l'effectif, même si il y en a pour certains, on l'a déjà dit, hein, ouais. Des garçons comme Nabil, Zanina, dont la saison est terminée, voilà.
Et c'est quand la finale de la coupe?
Alors c'est le jeudi 5 mai.
Ah, c'est après le 1er mai, donc on pourra fêter.
Le jeudi de l'Ascension, ouais, et donc
c'est
le
trois
match,
jours avant le dernier match.
Le match est fixé à 16h30. Et donc à 14h30, il y a les U19 qui font aussi leur finale de coupe de la Ligue contre Frontignan.
Ah, alors j'avais dit une bêtise la semaine dernière.
C'est pour ça que je voulais rien. C'est contre, donc à 14h30, Frontignan...
Qui a créé la surprise en battant l'UFC 7.
À AFL, donc en U19. Et donc juste après, 16h30...
Les U19 qui ont gagné.
US ce Béziers contre l'AFL senior. Donc voilà, un bon jeudi à passer à Poussin pour tous les supporters de demande.
Bah, un jeudi à Poussin, c'est toujours très agréable.
Ouais.
Ça s'annonce quand même assez.
Et ceux qui ne peuvent pas descendre pourront peut-être
aller au
chapitre, voir les finales départementales si la date n'a pas été modifiée.
Ah, exactement. Et au passage.
À moins que la radio commente le match à Poussin.
Peut-être.
Moi, ce que la radio, on a commenté un match.
Les matchs.
Moi, c'est 48 et 9. Ça fait déplacement 3 jours plus tard à Bagnolpont pour ce qui peut être le match à la montée.
Ouais, mais les matchs, on peut pas avec Laurent parce qu'on sait qu'on boit des bières en même temps. Donc, s'il y a plusieurs matchs, ça pose problème pour le
deuxième match par précaution.
Ça peut faire des bières avant et dans ce cas, c'est peut-être pas une étape.
J'ai regardé les résultats de Paulin qui a perdu ce week-end contre la réserve de Montpellier qui était second, mais qui reste quand même en tête de son groupe, qui va monter. C'est énorme.
Qui est en position, mais attention.
Là, peut-être à monter.
Montpellier peut monter en CFA. Donc, même si c'est une réserve. En commission CFA2,
ils ont 3 points d'avance.
Comme Montpellier est en première division, ils ont Montpellier a la possibilité de monter à CFA, donc ça va se jouer quasiment entre les deux équipes.
Ouais. Sauf si Montpellier descend en deuxième division.
Exactement. Montpellier descend, ils n'ont pas le droit de monter. Ouais. Mais bon, comment Montpellier va se sauver,
oui, c'est
tu nous l'as dit depuis le début de la saison.
Ah oui, je voulais
dire. T'inquiète pas.
J'ai dit
que Montpellier va gagner tous ses derniers matchs.
J'ai dit ça et Montpellier champion rugby, que tout le monde se moquait de moi, mais vous verrez.
Ah, mais là, c'est peut-être pas toi.
Ouais. Bon.
Bonne dynamique, ouais.
Bonne dynamique. La réserve, un bon match nul à Monoblé, 0 partout. Du coup, Mende qui est 9e au classement avec 43 points. Laurent.
Ouais, alors 9e avec 43 points, seulement un point d'avance sur le 11e, qui sera peut-être le premier relégable. Donc voilà, l'écart est mince. Cela dit, après un match nul à l'extérieur, c'est toujours encourageant de pas avoir perdu déjà à Monoblé, de pas avoir pris de but aussi. C'est ce qui est assez rare cette saison pour cette équipe réserve. Donc c'est bien, bravo à eux. Ben qui continue. Ce week-end, c'est la réception de Saint-Christol qui est 4e. Donc il va falloir absolument gagner ce match pour être vraiment quasiment à l'abri pour la fin de la saison.
Il reste combien de matchs là?
Voilà, donc sinon le NL a gagné.
4 matchs, je crois. 4 matchs.
4 matchs, c'est ça. Non, moi j'y crois. Je le sens bien. Match nul de Marvejols contre la réserve de Béziers, second du classement. Donc rien ne change. Marvejols qui reste 3e, 7 premiers avec un match de plus.
Marvejols qui s'est qualifié en finale de la Coupe Garloser en battant la réserve d'Alès.
Oui.
Et qui va retrouver
la réserve de Nîmes.
Nîmes Olympique. Qui va retrouver la réserve de Nîmes Olympique.
Un CFA 2.
Ah, c'est très bien. Ouais.
2-0, c'était mercredi dernier. Match maîtrisé de la part de Marvejols qui a su rebondir après son élimination en demi-finale de la Coupe de la Région. Contre l'UAS Béziers, et donc belle performance du club de Marvejols avec cette finale qui sera le point d'orgue de leur excellente saison.
Et qui sera où et quand?
Ça, je crois que c'est pas encore fixé.
C'est pas fixé encore.
Contre le Nîmes Olympique, non, contre le Nîmes Olympique, c'est sûr. Et donc, justement, la date ne sera a priori pas le 5 mai, parce que on voit mal la finale de la Coupe District Garloza être en concurrence avec la finale de la Coupe de la Région.
Et de la Coupe Lozère.
Oui.
Il faudrait que ce soit la Grand Combe, c'est le meilleur terrain qu'il y ait entre les deux.
Les deux
ça, parce que le collège de Dez, il n'est pas terrible.
D'ailleurs, la FL, quand ils avaient gagné la Coupe de la Garloza, c'était à la Grand Combe contre une équipe de Nîmes.
Ouais. C'était pas Nîmes.
Je sais même pas, je crois.
Ah ben. Et tu parlais de ce match de Béziers, pour l'anecdote, le gardien de cette équipe de Béziers, donc c'était la réserve de Béziers qui jouait en national, c'est un Lozérien bien connu, Antoine Botorel, qui a fait les belles heures
de
l'éveil mandois avec ce premier vrai épopée en Coupe de France à l'époque, donc avec des matchs Angoulême, c'était.
Voilà, c'était ça, et puis c'était l'époque CFA2 aussi.
Voilà,
c'était l'époque où tu jouais.
L'époque CFA2.
Je jouais.
Il y avait Stéphane Soura, il y avait Surimé.
Non, moi j'étais au Val d'Aunès à cette époque-là.
Ah.
Le Val d'Aunès qui gagnait à cette époque-là.
Il y avait Sesco.
Toi, tu vas devoir t'excuser la semaine prochaine. Toi, tu vas prendre des SMS.
Ouais.
En tout cas, on perd contre un match nul contre le second 0-0. On est toujours troisième, 58 points. Ouais, tu l'as dit, Patrick, hein, ça clôture cette belle saison.
C'est une finale. Maintenant, il faut vraiment essayer de gagner cette finale. Histoire, ça ne sera pas facile du tout,
compliqué.
Puisque
Nîmes
Olympique est en tête de son groupe de CFA2. On voit tout le.
Alors je crois que je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise puisque ce serait pas la première. Antoine Botorel était au club de l'AFL la première année de l'AFL.
Oui, mais il était aussi à l'Éveil Mandois. Il a fait la transition.
Oui, il était à l'Éveil Mandois, mais je veux dire, il a connu l'AFL.
Et après, il est parti à Alès.
Et il est parti à Alès en national.
En national, oui.
Où il jouait avec un certain
Ribéry.
Franck Ribéry. Oui, il jouait. Pas beaucoup, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs.
D'ailleurs, il faisait du carrelage.
Ils n'étaient pas beaucoup payés, non plus.
Tu dis, puisque le club a été liquidé, financièrement, ils étaient pas beaucoup
payés. Je crois que Ribéry, il doit du pognon à Antoine.
C'est notre histoire. Non, mais en tout cas, Franck Ribéry, oui, était reparti.
Faire du carrelage à Metz, à Boulogne.
Non, pas à Metz, à Boulogne. Pas du carrelage, mais de la maçonnerie, au mois de mars, je crois, 2-3 mois avant la fin de saison.
Je le connais, ça, à cette époque.
C'est carrossier, ouais.
Et après, Antoine était parti au Fun, d'ailleurs, je crois.
Oui,
à Narbonne.
Allez, on change d'équipe. On n'a pas le résultat de l'ENL, Laurent ?
Si, alors si, bien sûr, l'ENL qui a gagné dans le derby contre Saint-Flour, qui est dernier, du coup, Saint-Flour, 3-0. Qu'il était déjà, qu'ils le resteront.
Ils sont bien, cette place.
Donc, deux buts de Dosso Ekbete à la 45e et 93e, et un but de Boubacar Faye à la 82e. Donc, une très belle opération du club. Oui.
Classement, Aurélien, tiens, t'en as pas lu encore.
Et pas encore, je me demandais, t'arrêtais pas de les dire depuis tout à l'heure, j'étais un peu déçu. Donc, très bonne opération pour l'ENL qui se retrouve 6e avec 49 points, donc à 3 points du premier Saint-Georges, 52 points, deuxième Chamalières, 52 points, troisième Domera, 51, quatrième Moulin 2, 50 points, et donc ensuite Polignac et l'ENL à 49 points.
Aurélien, regarde devant, vous avez
vu. Sur ce 49 points, je suis un peu dubitatif.
Si c'est le cas.
Ouais, je pense pas que l'ENL est 49. Je pense qu'il aurait plutôt 46.
Ah, est-ce donc, que Midi va faire encore une.
Je dis une bêtise, mais bon.
Peut-être Flo Baudin qui nous écoute tous les lundis.
Moi je dis ça parce qu'il me semble qu'ils étaient égalité que Vichy. Donc, comme je vois que Vichy est 46.
Toujours 46. Mais si Vichy a perdu ce week-end, peut-être.
Vichy a perdu. C'était un match en retard, non?
Non, c'est pas un match en retard.
Vichy a perdu 1-0.
Toujours est-il que si 49 c'est bon, il y a 15 jours, ça, le NL jouait.
Vichy a perdu contre Isère.
Et là, il joue la montée.
Moi, je vois le NL à 46. Donc, bon.
C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Vu comme il est serré ce classement, c'est pas impossible qu'il.
3 points de retard sur le premier.
Ouais. Et 6 d'avance sur le premier normal.
À mon avis, tu aurais. D'après mes calculs, le NL aurait 6 points de retard sur le premier. Donc c'est pour ça que. Bon, enfin, peut-être que je me trompe pas. À vérifier.
Mais si c'est 6 de retard, 6 d'avance, ça fait 49 alors. Puisqu'il y a 43 clairement.
Et non, c'est 22.
Ça fait 46.
Ah, mais par rapport au premier,
je crois
6 points d'avance.
Non, par rapport au premier.
Bon, bref. Très bonne opération de l'ANL.
Ouais, en tout cas, très bonne opération, ça c'est clair. Et je crois que dimanche
qu'il va
prochain,
falloir confirmer.
Ils vont à Clermont, donc mal classé. Donc là aussi, un gros match en perspective.
Ouais,
la troisième équipe de Clermont, mission, le club pro qui joue en Ligue 2.
Et puis surtout l'ANL qui a battu sa bête noire. Parce que les derbies contre Saint-Flour, ils ont un peu de mal à les gagner généralement.
Puisqu'à l'aller, ils avaient pris 4-0.
Ouais, en plus, voilà, c'est
à Saint-Flour. Donc bravo à tout le club de l'ENL.
Et en plus c'est ce que tu disais Laurent la semaine dernière, ils l'ont joué à Saint-Chély, non? C'était pas sur le
c'est pas sur qu'il avait dit parce que
c'est moi qui l'ai dit qu'ils jouaient ils ont joué à Saint-Chély.
Ouais, Saint-Alban porte malheur a priori.
Donc le synthétique leur porte malheur.
Vive Saint-Chély, vive Saint-Chély. La mairie de Saint-Albin a déboursé 400 000 euros de terrain pour
des défaites. Hein.
Pour les féminines.
Non, la réserve y joue, par
exemple. Il n'y a pas de féminine.
Allez, pause musicale avant de parler de l'actualité nationale et internationale avec ces grands pronostics que vous avez fait la semaine dernière. Un morceau choisi par Laurent, un morceau de Java.
Voici le petit type à rigot qui pilla, va tirer l'arigot. Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir, le space colique, l'extraterrestre des comptoirs. Mais le compte à rebours, chronomètre, les pulsions du jour. 8-6 en moyenne, je nage le gros lambour. Et la brasserie, latitude 1664, coulée en apnée, ça y est, c'est parti. Rampe de lancement, réacteur, transmutation, j'ai perdu connaissance, normal, c'est la pression. J'ai l'inspi qui se fait ski, qui me traîne comme un whisky. Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski. Et je dis, bah les masques, bois de masse vinasse. Si t'en as marre d'être vivant, fais un virement de vin dans le vent de vomi. Luke Sky, un Johnny Walker, nous nous embourbons. Faut colmater le foire à fond. Et une fuite dans la vessie spatiale de la NASA. J'ai la nausée, trop de kryptonique, hey, de gin tonic, hey, éjecté du cockpit. Exit direct vite et mon beat va te mettre en orbite. Ta bière de Mars, attaque martien, un petit verre. Champagne, Dark Val, Star, sabre au laser. Boulawan, Kenobi, passe en cyber, se passe sur CD-ROM. Pulvérise l'atmosphère comme Arletty. Boom, zoom, gros plan sur le clown. Un dernier alcool de poire et je tombe dans les pommes. Boom, le lendemain je me réveille la tête entre les jambes. Je rentrais du cosmos mais j'ai gardé le scaphandre. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. Java, c'est pas de la Montano. Java, c'est du rock'n'roll. Java, c'est le vrai son parigot. La devise,
c'est que s'accorder en alcool.
Java, c'est pas de la Montano. Java, c'est du rock'n'roll. Java, c'est le vrai son parigot. La devise,
c'est que s'accorder en alcool.
C'est pas de la Montano.
C'est pas de la Montano.
C'est pas de la Montano.
C'est pas de la
mentalo.
Je suis un fossile antique de l'âge néotilique. Un rescapé du bal musette sur internet. Bok à l'inter, culti star, prec, astéroïde, bulle de rejoint, camouflage, soufflette. J'refoule le boulot, autant que du goulot. J'suis pas un cadeau, le club chômage, mon bureau, ma vie, mes locaux. Coco, j'ai pourtant eu tous mes diplômes à la fac. J'suis bac, plus 5 et licence 4. Un grand sportif, garçon, un ballon. Sors le carton de rouge, me mets pas sur la touche, elle me sort comme un tampon. Serre à la louche sur la tourtelle, j'ai fait le grand pont. Tu peux toujours me décrocher du comptoir, sors mes crampons. Un vétéran hors jeu, sorti des vestiaires. Entre l'anneau de Saturne et la planète Jupiter. On barre le pénalty, tout le monde part de mon transfert. Au Bayern de Munich pour la fête de la bière. Alerte rouge, la connote a perdu le contrôle. Je suis devenu vert à pied pour le nez vert, donnons le contrôle. En type de poche, je suis bon pour la touche. Menton, t'as collé les mis à crever le ballon d'un souche. La partie finie de Jacques à Césaire pour un zéro. J'ai la part transversale qui est plantée dans mon cerveau. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné.
Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété.
Java, c'est pas de la mentalo.
Java,
c'est du rock'n'roll.
Java,
c'est le vrai son barigot. La devise,
c'est que s'accordéon et alcool.
Java, c'est pas de la mentalo. Java, c'est du rock'n'roll.
Java,
c'est le vrai son barigot. La devise,
c'est que s'accordéon et alcool.
Java, j'arrose tout le monde, ça finit toujours en dessous de table. Vote pour mon estomac en ballotage favorable. J'fais du mal au colon, le conquistador du terroir. Partout où je passe, s'établit un comptoir. De l'or du poireau, je veux que mon nez soit décoré. Commentaire au panthéon et je servirai de sous le signe du Verseau, j'étais pourtant bien parti. Mais tous mes atouts sont tombés à l'oubli. Fallait bien que je me démerde pour vous soutirer du blé. J'ai écrit cette chanson après une étude de marché. Je la dédicace à tous les alcooliques. C'est sûr qu'en France, je serai un large public.
Bravo Laurent, bravo. Allez, on s'est renseigné, donc t'avais raison Patrick, une erreur sur l'ENL.
Oui, donc l'ENL a bien 46 points, et donc qui est égalité, Aurélien, tu disais, ben voilà, c'est ça, avec Vichy et Cournon, donc à la 8e place. C'est ça ?
C'est ça.
Ouais, voilà.
Allez, bravo. Une autre info qu'on a oubliée, Laurent ?
Oui.
Une info lozérienne.
Voilà, donc c'était pour faire un petit peu de pub. Le samedi 23 avril à Lacanourgue, très exactement à La Roque. C'est perdu entre Lacanourgue et Banassac ou je ne sais où. Il y aura le festival d'escalade et de sport outdoor pour le festival Rock'n'Wall. Donc voilà, si vous avez les cheveux longs, vous pouvez dérouler, vous pouvez aller faire de l'escalade. Non, je plaisante, c'est ouvert à tout le monde.
Parce que toi, niveau cheveux longs.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il y aura des animations, des démonstrations, tout le monde pourra participer. Et il y aura surtout deux cadors de la pratique, donc Dédé Dulac et Elodie Orpahen, qui sont tous les deux champions du monde d'escalade et de cascade de glace. Donc voilà, il y aura des concerts, il y aura plein de choses bien. Donc voilà, c'est
Le champion du monde de cascade de glace, c'est bon ça.
Oui, mais c'est le 23 avril à La Roque, à côté de Lacanourgue.
Ouais, on vous attend nombreux. Non, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai le vertige, alors je peux pas faire d'escalade.
Donc vous pouvez faire de la l'initiation à la. Alors attends. À l'escalade, bien sûr, au slackline, au show parapente, il y aura une démo highline, il y aura même de marché de pays, il y aura tout ce que vous voulez, c'est génial, quoi.
Et on comprend pourquoi t'as pas fait commercial, toi. Hein.
Ouais,
tu les vends mal.
Un bon vendeur. Allez, non, mais c'est sympa qu'il y ait des jeunes associations qui montent des choses comme ça.
Exactement, c'est une très bonne chose, ça a l'air très intéressant. Le 21 avril, Luc, c'est ça?
23
avril
à partir de 10h
du matin, n'hésitez pas à y aller nombreux.
Avec un repas à Ligos aussi, c'est le soir.
On en parlera dans les infos de
48 FM. Fallait commencer par ça.
Et un apéritif animé à 19h30.
Ouais. Et en parlant de date, on rappelle que ce samedi à 20h30 au gymnase Saint-Privat, gros match, le match de l'année du basket. Et on vous attend vraiment très nombreux pour voir le BSM se maintenir en régional, même si peut-être qu'ils vont descendre parce que même ils auront peut-être pas envie de se maintenir, hein, vu leurs résultats de cette année. Allez, on parle de football. Alors, je vous ai écouté la semaine dernière, j'étais pas là, les pronostics, c'était pas facile. Mais alors, pas terrible, les gars. Hein,
qui aurait pu se douter que le PSG joue comme les branquignoles ce jour-là aussi.
En vous écoutant, je me suis dit, mais personne dit 2-2. Mais bon, alors, par contre, ce sont des résultats quand même étonnants, voire serrés. Hein. Je vais les rappeler. Barcelone qui gagne difficilement contre l'Atlético de Madrid, 2-1 à 11 contre 10. Le Real qui perd 2-0 à Wolfsburg. Le Bayern qui gagne 1-0 contre Benfica. Le PSG tenu en échec 2-2. Patrick, avant cette journée, personne n'aurait donné l'ensemble de ces résultats. Hein.
Non, c'est vrai. Il y a eu des matchs quand même de très haut niveau. Tu parlais de ce match Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Il faut quand même rendre hommage à cette équipe de l'Atlético avec, c'est vrai, des joueurs qui sont peu connus, il faut le dire. Bon, nous, on connaît Griezmann, mais bon, qui connaît Griezmann en dehors quasiment de France et d'Espagne.
Et
sinon, après, voilà, Torres, mais qui est quand même en fin de carrière, même s'il a marqué ce but.
C'est qui a été complètement bête, voilà. Hein, parce que là, il faut arrêter de dire le Barça est aidé, les deux cartons, non, ils sont largement mérités.
Pour moi, l'expulsion, pour moi, est tout à fait logique.
Ils sont limite stupides, ces cartons.
Ah, c'est stupide.
Indiscutable. Le deuxième.
Le deuxième, c'est le gros débile, quoi.
Voilà, donc l'Atlético, c'est vraiment, on sent vraiment un collectif magnifique de l'Atlético. Moi, je souligne ça. Des joueurs qui se connaissent depuis maintenant plusieurs saisons, avec un entraîneur qui vraiment les pousse à son maximum. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que ce soit vraiment un disciple de Bielsa, parce que, à mon avis, c'est le successeur de Bielsa. Tout du moins dans la façon dont il se comporte sur le banc, bon, pas vestimentaire, ça on est d'accord. Il est beaucoup plus classe, mais enfin, la façon dont il motive ses équipes et il fait jouer ses équipes. Et donc voilà, des Atlético, des joueurs espagnols. Bon, c'est pas des Piquet, c'est pas des Busquets, des gars comme ça, des Jordi Alba, on les connaît pas, mais par contre, c'est des joueurs qui sont fabuleux.
Individuellement, il y en a aucun qui pourrait jouer au Barça.
C'est vrai, tu as entièrement raison.
Mais collectivement,
Diego,
ça fait quelque chose.
Diego Simeone qui met la même hargne dans son coaching qu'il avait quand il était sur un terrain. Et puis vous les supporters de Marseille, vous avez quand même dû remarquer la présence étonnante de ce petit défenseur français,
oui.
Lucas Hernandez.
Il vient d'où, lui?
Qui est le fils d'un ancien joueur de Marseille.
Jean-Philippe ou Jean-Christophe?
Jean Hernandez.
Jean-François.
Non, c'est Jean-Philippe.
Jean-François Hernandez.
Très bon défenseur qui était un guerrier.
D'ailleurs, qui avait les cheveux longs.
Qui avait les cheveux longs et qui a fumé du roulé. Et qui a fini sa carrière en Espagne.
Il fait de l'escalade.
qui a fini sa carrière en Espagne et donc son fils qui joue à l'Atlético
Qui joue en équipe de France Espoir.
Alors ça, c'est peut-être le résultat le moins étonnant pour moi, parce que j'attendais à ce que l'Atlético fasse un gros match au Barça. Rien n'est joué.
Après le Real, moi je te dis que Zidane, depuis le début, ça sera un fiasco, donc ça, je te le dis et je le répète. Donc,
Zidane qui a gagné 4-0 hier soir.
Ouais, mais bon,
mais qui a sauvé sa saison. En gagnant un Classico, il a sauvé sa saison.
S'il est éliminé contre
Wolfsburg,
on
verra ce qui va se passer. Quoi.
Déjà, il a
mais il n'est pas encore éliminé.
Non, il n'est pas éliminé.
Parce que le match retour à Bernabeu.
Un, il n'est pas éliminé. Et deux.
Vous y croyez-vous au match retour? Moi, je n'y crois pas.
Ouais, ça peut partir, si ça peut partir un festival offensif.
Et s'il prend un but, il faut qu'il en marque 4. Hein.
Wow, disons que les stats sont contre le Real Madrid, puisque Madrid ne s'est jamais qualifié pour une demi-finale en ayant perdu le match aller.
2-0.
Mais bon, là, un 3-0, c'est quand même largement dans les cordes du Real Madrid.
Peut-être le club dont je me fais le moins de soucis, c'est le Bayern, qui gagne seulement 1-0. Mais bon, le Bayern reste le Bayern à l'extérieur.
Benfica aussi, c'est vraiment des clubs qui sont là et qui n'ont pas aussi des joueurs hyper connus.
Ça joue bien.
Qui vendent leurs meilleurs joueurs. Ça fait pas un peu à Marseille. Hein.
Ouais.
Voilà, mais eux, ils arrivent à trouver des remplaçants, efficaces que ceux qui arrivent à Marseille.
Le problème, c'est que Marseille, vous avez des bons joueurs, vous les vendez, ils sont libres en fait. Donc du coup, ils vous rapportent zéro. C'est un peu le souci.
C'est un Benfica qui aurait pu tirer le match nul, puisqu'ils ont, ils auraient dû avoir un penalty au cours de ce match. Donc ça va être plus serré que tu ne le dis, mon cher Ludo.
On les connaît, les Allemands. Le problème, c'est qu'ils vont gagner sur un but.
Si tu veux parler de Paris, quand même, signalons cette énorme erreur de l'arbitrage d'entrée de match où il doit y avoir pénalty sur Matuidi et fatalement, puisque l'arbitre, bien sûr, aurait dû appliquer la règle, il aurait dû avoir carton rouge. Donc pour Mangala, le défenseur français de Manchester City. Donc ça aurait quand même tout changé, même si Ibra aurait raté ce premier pénalty.
Il aurait peut-être marqué.
Peut-être marqué. Bon, en tout cas, le match aurait été totalement différent.
City a été quand même fair play de rendre un but au PSG.
Oui, c'est vrai, c'était sympa.
C'est quand même. Quoi.
On est d'accord, Paris.
Et PSG qui a été sympa de rendre un but à City quand même, au cas où.
Quel but?
Celui d'Aurier. Le deuxième but. C'est une catastrophe. On est d'accord, Paris est passé totalement à côté, mais connaissable.
Paris est passé à côté, mais. Alors c'est quand même ambigu de dire ça, parce que il aurait pu y avoir au début de match 1-2-3-0, bon, avec une occasion énorme pour Ibrahimovic face au gardien, il tire au dessus, bon, il rate ce penalty, donc Paris aurait dû faire la différence bien plus tôt face à une équipe de City qui m'a absolument pas fait rêver et qui m'a semblé quand même petit niveau, quoi.
Pas du tout voir Agüero.
Ce qui est embêtant, c'est que le PSG est bon quand il joue contre Guingamp, Reims, Marseille.
Allez, arrête.
Mais en Coupe d'Europe, finalement.
Patrick, en Coupe d'Europe, non, je suis pas d'accord.
Ils n'ont pas surclassé.
Patrick,
le PSG, je sais pas, mais Ibrahimovic, justement, qui rate un penalty et un face-à-face, justement. Est-ce que quand il arrive dans des matchs, je parle pas au niveau mental, mais est-ce que c'est pas aussi une question de niveau quand il arrive contre des défenseurs un peu plus rugueux et un niveau élevé?
Il
fait un
blocage. Il fait un blocage.
Je suis vraiment pas certain que la défense de Manchester City ait été la défense la plus rugueuse. Et la plus solide.
Est-ce que Zlatan, pour ses face-à-face, pourrait pas faire des ateliers avec Fadil sur les lobes?
Il aurait pas raté celui-là.
Après, il met un ballon sur la barre.
Oui.
Il marque un but.
Et le but, il en met deux.
Et le penalty, c'est plus Joe Hart qui va faire un bel arrêt parce qu'il va bien la chercher.
Non, un penalty, tu le loues pas. Le penalty, pas mal tiré.
Moi,
j'aimerais savoir pourquoi
il avait envoyé un SMS avant. Je me savais où il allait tirer.
Je me pose juste la question. On dit toujours que Zlatan est pas là dans les matchs cruciaux parce qu'il est.
Il a été là, il a mis.
Parce qu'il a pas de mental. Est-ce que c'est pas une question de niveau plutôt que de mental?
Non, je crois pas. Je pense qu'il était, enfin, sur ce match-là, mis à part effectivement ce un contre un qu'il loupe, je pense qu'il a vu le niveau. Moi, je pense que c'est plus le PSG dans son ensemble qui a loupé ce match. Aurier a pas fait un bon match. Je pense qu'il y a une gestion difficile
du cas
Marquinhos
après le match.
C'est une erreur monumentale, à mon avis, de la part de Laurent Blanc, d'avoir fait jouer Aurier au-delà de sa forme physique et au niveau du jeu, puisque finalement il avait quasiment pas joué. Il a fait un match de CFA et deux matchs en Côte d'Ivoire contre le Soudan. Bon, on peut pas, voilà. Bon, tout le monde comprend que c'est pas du niveau d'un quart de finale de Ligue des Champions. Donc, Blanc a fait une erreur monumentale, aussi bien sur la forme d'Aurier à ce moment-là, que sur la gestion de son groupe et du signal qu'il envoie à ses joueurs.
À Marquinhos.
Bon, c'est
Marquinhos
totalement,
qui est le meilleur défenseur de Paris après Silva et qui joue jamais, c'est un scandale, quoi.
C'est la faiblesse de Laurent Blanc et ça montre aussi qu'en fait, Laurent Blanc n'est pas le vrai patron technique de son équipe et qu'il est fortement influencé par ses dirigeants, chose que Ancelotti, et je le répète, si Aurier avait dit qu'Ancelotti est une fiotte sur Periscope,
ou Mourinho, je peux vous dire
que Aurier avait fini sa carrière au PSG tant qu'Ancelotti aurait été l'entraîneur. Alors avec Laurent Blanc, au début, il a fait le mec outré, puis finalement, Al-Khelaifi lui a dit, bon, peut-être qu'Aurier est pas mal.
Donc,
on va le mettre en quart de finale.
Patrick,
de la Ligue des Champions, c'est totalement fou.
Un mot, on en a parlé tous les deux quand on s'est vu il n'y a pas longtemps, un mot sur Verratti, parce que c'est là le réel problème de Paris. Hein.
Mais tu as vu que ça y est, Blanc a enfin compris qu'il fallait que Verratti joue à tout prix, donc peut-être qu'ils vont mettre Verratti demain, en lui faisant risquer le fait qu'il peut rater l'Euro avec l'Italie qui suit. Donc c'est la preuve de l'importance de Verratti. Mais je suis convaincu, Verratti pour moi est quasiment le meilleur joueur, pour moi même meilleur joueur de Paris, de tout l'effectif.
Verratti et Pastore qui sont dans le groupe pour aller à Manchester demain, ils sont tous les deux
ils
dans
n'ont
le groupe.
Pas plus de jus qu'avait Aurier avant de participer au match aller.
Mais Verratti c'est une classe au-dessus des autres, moi je suis d'accord avec Patrick, ça te change une équipe, un mec comme ça.
D'ailleurs Arrigo Sacchi, l'entraîneur mythique de l'AC Milan compare à Verratti à Picasso. Oui. Donc là, quand même, voilà, c'est fabuleux.
Et puis surtout, c'est que là, t'as pas Matuidi pour le match retour qui est suspendu. Oui. Donc
après,
c'est vrai.
Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas David Luiz en défense centrale.
Vu le match de Matuidi à l'aller, c'était pas non plus extra.
Il avait un caillou dans la chaussure, il a dit.
On parle d'Ibra, mais je pense que c'est le PSG dans son ensemble qui a pas fait un grand match contre une équipe de City qui était.
Patrick, même Lucas, tu parles des choix de Blanc, mais Lucas de pas le mettre, je suis pas sûr que c'était un bon choix vu sa forme actuelle. Pronostic, allez, Laurent Julien.
Victoire du PSG 2-1. Et donc qualification.
Paris 1-0.
Alors moi je voulais dire 2-1 pour Paris aussi, mais comme Laurent vient de le dire, je vais changer mon pronostic. Je vais dire 1-0 pour Paris.
Parce que tu crois que City va pas marquer de but?
Et moi j'ai dit 1-0 aussi.
Attaque,
Non, il a raison.
Ah oui, il a dit 1-0 aussi, tu veux pas dire comme Luc.
Ah non, mais comme Luc, j'ai totale confiance à Luc. Surtout en toi que j'ai pas confiance.
Merci.
2-0 pour Paris.
À tout le monde Paris, mais toi, tu croyais quoi.
Tu veux dire ce que tu dis.
Moi, je vais dire...
3-3.
J'ai envie de dire un gros score pour Paris ou Manchester qui se qualifie, donc c'est quand même un peu ambigu.
Bon, allez, tu sais pas quoi.
Mais non, j'en sais rien. Merci, Laurent. Donc, je vais dire un 2-0 pour Manchester City.
Wow. Allez, bim.
Ciao Paris.
Il est naze, lui.
Faut quand même noter le pas de chance de Paris. Laurent Blanc qui met tous ses cadres au repos sauf deux.
Et qui se blesse.
Il y en a un qui a réussi à se blesser en prenant un coup de tête de
c'est
son.
Qui
bah, c'est Kevin Trapp qui a pris
Kurzawa.
Qui a pris Kurzawa sur le genou. Et Kurzawa qui a eu le nez pété et Trapp qui est sorti à la mi-temps. C'est quand même pas de chance.
Il doit jouer, je crois, hein, quand même, Trapp. Hein.
Oui, il joue avec une béquille. Bon, pour un gardien, une béquille, c'est moins gênant. Mais,
quand même. Hein.
Que pour un joueur
vous
de
vous rappellerez du pronostic de Ludo parce que la semaine prochaine, il n'est pas là. Donc,
c'est vrai.
Il va falloir qu'il l'assume.
On l'appellera.
Je vais déjà faire le montage pour l'installer dans l'ordi.
Ouais,
okay. Il avait raison. Basket NBA, on va parler de Portland. Non, de Golden State qui s'est imposé à San Antonio cette nuit, qui égale le record de la grande équipe des Bulls et qui va peut-être battre le record ce jeudi contre Memphis à domicile, ça se passe bien. On a très peu parlé de Golden State au début de saison dans nos pronostics. Pour nous, voilà, ils avaient été champions, c'est fini, on s'est complètement planté. Tiens, capitaine, allez, que dire de cette équipe, de ce record qui est égalé, qui va être battu peut-être.
Juste, il va sûrement être battu. C'est juste être admiratif et ébahi devant cette équipe. C'est une équipe, quand on la regarde jouer, quand on aime le basket, on peut être que conquis par cette équipe. Et quand on ne s'y connaît pas trop au basket, ben, c'est une équipe qui nous fait aimer le basket, quoi. Tellement ça joue bien collectivement et aussi sur des phases offensives, sur les trois points. Enfin, c'est un régal.
Alors, Golden State, qui il y a quelques années avait un shooter. totalement hallucinant, quasiment un des meilleurs, je crois, je pense à moins que je dise une bêtise, mais Chris Mullin,
voilà. Chris Mullin, ouais.
Donc Chris Mullin, qui était un shooter à 3 points totalement exceptionnel.
Champion.
Donc, mais qui n'avait pas les joueurs autour
non.
pour vraiment briller c'était, avec son équipe. Mais,
champion olympique champion avec olympique la Dream Team à Barcelone.
Il y a voilà. noté que Steve Kerr, qui est l'entraîneur actuel Golden State, faisait partie de la grande équipe des Bulls qui avait oui. ce record. Mmh, donc
absolument.
C'est quand même fou. Alors les playoffs commencent la semaine prochaine.
Le 16 avril.
Donc on réécoutera aussi nos pronostics, sachant que moi je crois que j'avais dit Chicago en finale, donc
c'est mort.
Je suis un peu mort. qui sont même pas qualifiés, qui ont battu Cleveland quand même, mais bon, qui sont pas qualifiés. Non, mais allez-y, discutez en plein milieu, Luc et Laurent. Qu'est-ce qu'il y a? Allez.
Non, j'ai lu sur internet, je me rappelais plus le nom. Luc vient de me le dire, je crois que c'est Scottie Pippen qui a dit que si on faisait un match à l'époque à valeur réelle, un playoff, les Bulls mettraient 4-0 à Portland.
Ouais, alors.
À Golden State.
Je me mélange.
Scottie Pippen, depuis qu'il a arrêté sa carrière, a quand même une propension à dire des conneries plus grosses que lui.
Il boit.
Assez impressionnant.
Il joue toujours en Suède.
Ou en Finlande, non, il joue plus.
Il fait d'escalade maintenant.
Mais je ne sais pas.
La grande équipe des Bulls dure quand même.
Je ne sais pas si on peut vraiment comparer ces deux époques.
C'est incomparable.
Il y a vraiment un monde d'écart entre ces Bulls-là et. Et les Warriors.
Déjà, le jeu n'est pas le même, l'arbitrage n'était pas le même, donc ça serait complètement différent.
Les joueurs ne sont pas les mêmes.
Non, mais c'est vrai que cette équipe de Golden State est quand même surprenante. Bon, c'est vrai, c'est les champions en titre, on connaît la valeur de cette équipe, mais quand même,
avec des joueurs.
Bon, tout le monde parle de Stephen Curry, mais qui est capable de citer le 5 majeur de Golden State, à part les initiés comme vous, bien évidemment.
Non, c'est vrai que
c'est quand même compliqué. Alors, c'est pas des joueurs, bon, à San Antonio, tu peux
dire. Il y a Curry, il y a Safran.
Il y a Chorizo. Il faut quand même souligner le jeu collectif de cette équipe qui. Moi, c'est ça qui me fait plaisir dans cette équipe, c'est vraiment la façon de se fonder pas.
D'autant que Stephen Curry, c'est un joueur qui s'est révélé sur le tard. Il a un début de carrière qui est miné par les blessures. Il avait des gros problèmes de cheville. Il a 28 ans, hein, Stephen Curry. C'est pas un débutant, plus jeune. Non, et ça fait 3 saisons qu'il explose véritablement. Donc, voilà. Après, reste à savoir quel sera l'effet de cette course au record durant toute la saison. Quel sera l'effet sur les playoffs?
Ça va être compliqué, mais.
Est-ce que ça n'aura pas usé un petit peu les joueurs?
Moi, j'y crois, ce sont mes favoris.
Je pense que ça va se jouer en finale de conférence contre
San Antonio.
Contre San Antonio.
Ou Portland.
Je crois pas.
Portland qui est qualifié quand même.
Ouais,
officiellement qualifié.
Sixième.
Ou cinquième.
Eh oui, mais c'est bien joué. Et qui connaît le 5 majeur de Portland?
Personne, à part les trois fans de Portland et toi.
Voilà.
Mais surtout, je pense qu'on peut dire quelque chose qui est à peu près sûr, c'est que le champion sera à l'Ouest, champion NBA, parce que je vois pas à l'Est qui peut rivaliser.
Toi, t'as parié pour Cleveland, je crois. Hein.
Non, je crois que j'ai mis San Antonio.
Ah, t'as mis San Antonio. Ouais,
je vois pas trop à l'Est.
Cleveland, on sait pas.
Hein. Ouais, même Cleveland, ça me paraît compliqué.
On va revenir dessus. Allez, c'est l'heure, mais juste un dernier mot pour les quarts de finale de Coupe d'Europe de rugby avec un représentant français qui sera le Racing 92 contre Toulon, 19-16. Ouais. Victoire, Patrick.
Un match d'une violence là aussi, mais violence dans le bon terme, hein, puisque c'était pas des mauvais gestes, mais des chocs physiques totalement hallucinants avec des dégâts quand même assez monstrueux. Parmi certains joueurs des deux équipes, allez sur Twitter ou Instagram et regardez le pif de Dumoulin, là, le centre du Racing, il a une entaille, c'est complètement, ça fait même peur. Et donc, Guirado aussi, il y a eu tout un tas de joueurs qui ont explosé en plein vol. Et donc, c'est vrai que le rugby, on voit maintenant une dimension physique totalement impressionnante et ça fait quand même un peu peur. Aurélien, toi, je sais pas comment tu vois ça, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce qu'on ne sera pas comme le football américain?
C'est sûr qu'on peut se poser la question, des chocs au cerveau dans le football américain et c'est une problématique qu'il va vite falloir prendre en compte dans le rugby parce que, comme tu dis, les chocs deviennent de plus en plus violents et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que c'est très très dangereux. Donc, il va falloir faire très attention à ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a le syndicat des joueurs qui est très attentif à ce genre de choses. C'est pour ça qu'ils ont mis en place aussi
le protocole.
Après un chaos, on peut pas jouer le match d'après, etc.
Tu peux pas jouer pendant 3 semaines normalement.
Ouais,
3 semaines de repos.
Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce qu'effectivement le sport devient de plus en plus dangereux.
Les séquences de jeu de 2 minutes, c'est totalement fou avec. bon, des contacts, des rugs, des mots. Bon, ça,
je c'est, crois c'est que c'est Dan Carter qui est passé un petit peu à côté de son match.
Dan Carter, il a joué un match avec le jeu de Wambrack. Hein, donc, il a quand même fait tout son match et il a fait un match correct. Après, c'était un match d'avant, c'était pas de grosses envolées, hein. Il n'y avait pas eu de grandes envolées lyriques, ça a été beaucoup de pénalités, beaucoup de jeux avec les avants. Voilà. En revanche, si vous voulez voir du jeu aéré et du jeu qui court partout,
en Angleterre.
En Angleterre, ou alors regardez le rugby, le tournoi mondial à 7, et voilà, c'était, il y en a encore toutes les semaines là. Pendant quelques semaines, c'est impressionnant là aussi dans un autre niveau.
Ou Vakatawa nous a fait un petit numéro encore à 7, assez impressionnant.
Ouais. Si vous voulez voir du jeu aéré, vous pouvez aussi venir samedi soir
à 20h30
à Saint-Privat.
À Saint-Privat, Corne de Brume acceptée, Bombe Agricole, Fumigène, venez tous, allez, venez nombreux. Si vous êtes fan de l'Instant Sport, on vous attend nombreux ce samedi à 20h30, n'oubliez pas. Ciao les gars, on se retrouve la semaine prochaine, pas avec moi, je reviendrai dans 3 semaines. Je fais le concept une semaine travaillée, 2 semaines de repos.
C'est beau, ça.
Ouais,
c'est le travail.
C'est Macron, ça. C'est le Macron.
C'est le Macron. Il va dormir pendant 15 jours, c'est ça.
C'est ça. Allez, ciao les gars, à bientôt.
Au revoir. Salut.
Les Street John au couloir en numéro 2. Allez, les filles. C'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, t'as remarqué. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Oui mon petit bonhomme. Bravo.
Bravo. On est tout final.
Quarante-huit FM.